Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 25 mai.
Nouli, lancement aujourd'hui à Gohung. Séoul et Kiev signent un protocole d'accord sur la coopération dans la reconstruction de l'Ukraine. La BOK gèle son taux directeur et abaisse sa prévision de croissance pour 2023. Et enfin, Kwangyongse, Séoul se prépare à l'éventuelle fuite massive de Nord-Coréens par la mer. La Corée du Sud a lancé aujourd'hui avec succès sa première fusée spatiale construite avec ses propres technologies depuis le centre spatial de Nalo à Gohung, ville située dans le sud-ouest du pays. Il s'agit de son troisième essai. Le tir de Nouli, qui signifie monde en coréen, devait avoir lieu hier à l'origine mais a été reporté en raison d'un problème technique. 2 minutes et 5 secondes après le décollage, le premier étage s'est séparé, puis le carénage qui protège les charges utiles et le deuxième étage ont été délestés à 3 minutes 54 secondes et à 4 minutes 32 secondes respectivement. À 13 minutes et 3 secondes, le lanceur Made in Korea a atteint une altitude de 550 km et s'est mis en orbite à la vitesse de 7,6 km par seconde. Ensuite, il a relâché 8 satellites à un intervalle de 20 secondes durant environ 2 minutes. Ce relâchement de satellites en un si court laps de deux temps n'a jamais été effectué auparavant par le pays du matin clair. Le ministère des Sciences et des TIC et l'Institut coréen de recherche aérospatiale ont annoncé vers 20h que le lancement de Nouli avait été un succès. En effet, 7 des 8 satellites, à savoir le NEXSAT 2 et 6 microsatellites, ont été correctement éjectés. Concernant le CubeSat restant, il n'a pas été possible de déterminer si celui-ci a atteint son orbite prévue. Le ministre Lee Jong-ho a déclaré que la station King Sejong en Antarctique avait reçu des signaux de NEXSAT 2. On saura demain matin à 11h si tous les satellites fonctionnent correctement.
Dans l'actualité internationale, la présidence sud-coréenne n'a confirmé ni infirmé l'information publiée hier par le Wall Street Journal selon laquelle la Corée du Sud fournit des obus d'artillerie à l'Ukraine par l'intermédiaire des États-Unis. Dans un entretien téléphonique aujourd'hui avec l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, un haut responsable du bureau présidentiel de Yongsan a expliqué une telle ambiguïté par des considérations diplomatiques, autrement dit, Séoul est toujours prête à ne pas compter ses efforts pour aider Kiev, mais fait preuve de prudence quant à la livraison d'armes et sans raison de ses relations avec Moscou. Le conseiller de Yoon Suk-yeol à la sécurité nationale a lui aussi reconfirmé hier devant l'Assemblée nationale que son pays prendrait sa décision d'expédier ou non des munitions en fonction de la situation liée au conflit dans le pays envahi. Les propos de Cho Tae-yong sont cohérents avec ceux tenus par le président de la République lors de son interview avec l'agence Reuters le 19 avril. Le siège présidentiel a pourtant tenu à couper court aux spéculations de certains selon lesquelles le gouvernement a d'ores et déjà commencé à envoyer directement ou indirectement des armes létales à l'État d'Europe orientale. Hier, devant le Parlement, le conseiller présidentiel a redit que la Corée du Sud ne lui accordait même pas une telle assistance par le biais de la Pologne.
La guerre n'est pas encore terminée, mais l'Ukraine prépare déjà sa reconstruction après le conflit. Son gouvernement envisage de rendre publique une base de données contenant quelques 5000 projets en ce sens lors de la conférence internationale dédiée prévue les 21 et 22 juin à Londres. Un mois avant cela, Kiev doit la partager avec la Corée du Sud. Cet ensemble d'informations, baptisé Dream ou Rêve, détaille les régions où les projets devront être menés, leurs coûts estimés ou encore les ministères et les collectivités locales concernées. Cela permet au gouvernement et aux entreprises du pays du matin clair d'étudier plus sérieusement leur participation. De fait, un mémorandum d'entente visant une telle coopération a été conclu hier à Varsovie, la capitale polonaise, entre le ministre sud-coréen de l'aménagement du territoire, Won Hee-yong, et la vice-ministre ukrainienne de l'infrastructure, Oleksandra Azarkina. Pour le premier, il s'agit des informations servant de point de départ pour mieux se renseigner sur ce dont l'État envahi par la Russie aura besoin pour se rétablir. Du coup, il a promis de les examiner examiner immédiatement et de les partager avec les autres ministères, les entreprises publiques et privées concernées de sa nation. L'exécutif sud-coréen envisage de mettre sur pied un organe consultatif qui travaillera pour la participation au projet qui nécessiterait quelque 1,2 milliard de won, soit environ 850 milliards d'euros, d'où son surnom le second plan Marshall. Séoul et Kiev poursuivront leurs discussions en la matière. Les prochaines se dérouleront début juin en visioconférence.
On part maintenant au Japon. La délégation sud-coréenne a achevé sa mission de 2 jours à la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon. Ses 21 experts ont examiné hier le laboratoire d'analyse de nucléides, notamment les valves de blocage, à utiliser lorsqu'une anomalie est détectée avant le traitement des ALPS, le système de filtration des substances radioactives. Yu Guki, chef de la délégation et président de la commission sud-coréenne de sûreté et de sécurité nucléaire, a fait savoir que les techniciens avaient contrôlé l'emplacement et le fonctionnement de ces valves. Les capacités des équipements pour la dilution du tritium ont également été vérifiées. Il a annoncé avoir reçu des données primaires sur les taux de concentration de 64 nucléides trouvés dans les eaux polluées qui ne sont pas traitées avant d'ajouter les étudier ultérieurement. Selon Yu, les missions se sont bien déroulées et des progrès seraient possibles dans l'évaluation de la sûreté du déversement des eaux contaminées. Il a précisé que lui et ses collègues avaient inspecté toutes les installations et qu'ils avaient demandé des documents supplémentaires à Tokyo. Concernant le prélèvement des eaux polluées, le responsable de l'équipe a répondu qu'ils ne l'ont pas effectué eux-mêmes, mais qu'ils analyseraient toutes les données en la matière fournies par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le rapport final de cette institution de Vienne sera rendu public à la fin du mois prochain. Or, le chef de la délégation sud-coréenne n'a pas donné la date exacte de l'annonce par son gouvernement de l'évaluation de la sûreté du rejet des eaux contaminées dans l'océan qui sera basée sur les résultats de cette mission. Les experts tiendront aujourd'hui une réunion technique approfondie avec des responsables japonais avant de rentrer demain en Corée du Sud.
La Corée du Sud organisera le 31 mai un exercice d'interception maritime avec la participation de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon et l'Australie. La manœuvre se déroulera dans les eaux internationales au sud-est de l'île méridionale de Jeju. À quelques jours de cette opération, le journal japonais Yomiuri Shimbun a rapporté que Séoul et Tokyo avaient entamé leurs discussions pour que les navires d'escorte de la force maritime d'autodéfense nippone entrent au port de Busan fin mai en hissant le pavillon de la marine japonaise qui ressemble beaucoup au drapeau du soleil levant controversé. Or, ce dernier est considéré comme un symbole de l'agression militaire de l'archipel pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette information fait réagir certains médias sud-coréens et les autorités militaires de Séoul ont tenté de s'expliquer. Dans un point de presse aujourd'hui, le porte-parole du ministère de la Défense a détaillé qu'il y avait pourtant une légère différence entre les deux étendards. John Hagyu a ajouté qu'habituellement, lorsqu'un vaisseau entrait dans un port étranger, il portait un drapeau emblème de son pays, de son armée ou de son institution.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
Au chapitre économie, comme attendu, la Banque de Corée, la BOK, a décidé aujourd'hui de maintenir son taux directeur à 3,5% et ce pour la troisième fois d'affilée. Elle avait fait de même en février et le mois dernier. La Banque centrale a détaillé avoir opté encore pour le gel après avoir jugé approprié de garder le cap sur l'austérité, l'inflation devant rester supérieure à l'objectif fixé pendant un certain temps, bien qu'elle ralentisse. En avril, la hausse des prix à la consommation est repassée en dessous de 4% pour la première fois en 14 mois pour se situer à 3,7%. Cela dit, le chiffre a dépassé ce seuil si on ne prend pas en compte les produits alimentaires et l'énergie dont les cours sont fluctuants. L'institution estime aussi que la croissance économique est toujours au ralenti avec des exportations et des investissements en berne. De ce fait, elle a revu à la baisse sa prévision de progression du PIB à 1,4% pour cette année, contre 1,6% attendu auparavant. Sachez que le Fonds monétaire international, le FMI, lui table sur un bond d'1,5%. Depuis l'an 2000, la Corée du Sud n'a jamais enregistré une croissance de moins de 2%, sauf lors de la crise économique mondiale de 2019 et en 2020 dans le sillage de l'épidémie de coronavirus.
La Corée du Sud se prépare aussi à la possibilité d'une arrivée massive de boat people nord-coréens. C'est son ministre de la Réunification qui a fait cette remarque hier devant la commission parlementaire compétente en réponse à la question d'un député. Cet élu, Chang Jin-suk, du Parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation présidentielle, a alors évoqué le fait que 9 membres de 2 familles nord-coréennes ont fait défection au sud début avril en franchissant la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune. Avant d'interroger Kwon Yong-se sur les mesures prise par le gouvernement dans la perspective de fuite collective d'autres habitants par la mer. L'ancien chef du comité d'urgence du PPP a aussi indiqué que la situation dans le pays communiste semblait urgente en raison des pénuries alimentaires. Selon le ministre, il est certain qu'au nord, la situation économique et alimentaire s'est dégradée au cours de ces dernières années et les nouveaux déserteurs auraient pu quitter leur pays en profitant d'un contrôle affaibli par le recul de l'épidémie de coronavirus. Le nombre de ceux qui devront leur emboîter le pas pourrait désormais augmenter, plus particulièrement après la réouverture avec la Chine. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yun Hae-jung et Maxime Lalo. Merci d'avoir été à l'écoute et bon jeudi sur KBS World Radio.